En fait, c'est ça qui t'a le plus travaillé, c'est d'avoir assisté à tout ça,
Voilà.
d'avoir vécu tout ça, en tournant la tête,
Voilà.
en disant rien, en
J'aurais dit
laissant
quelque
faire.
chose, j'avais
Ouais,
une
ouais.
punition, mais aujourd'hui, je serais content de
De l'avoir fait.
l'avoir fait.
Oui, il y en a relativement peu qui ont fait des choses. Bon, et d'ailleurs, certains ont écrit des livres, tout ça, et c'est très très minoritaire, effectivement. Et en plus, comme tu le dis, non seulement ceux qui ont été là-bas n'ont rien dit, peut-être qu'ils n'avaient pas la possibilité, hein, que j'ai bien expliqué comment ça s'est passé, mais il y en a beaucoup qui n'ont rien dit jusqu'à leur mort, pour ceux qui sont morts depuis. Et il y a des familles où parce que l'échange qu'on a avec toi ne se passe même pas. Et c'est ça, c'est fort aussi, parce que.
Mais je sais que c'est quelque chose qui est assez compliqué pour toi, parce que j'ai entendu dire que lorsqu'il y a à Bordeaux ou dans la région des projections ou des débats autour de cette question de la guerre d'Algérie, en général tu n'y vas pas.
Non, non. Ben, la clé des ondes m'a demandé, mais
Ouais. La clé des ondes, pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est une radio libre, fréquentable et bordelaise.
Bon, même au groupe, c'est le groupe Barbu, en fait, anarchiste, qui
Ouais.
m'a proposé d'y aller. Moi, j'ai répondu, parce que justement, vers la quarantaine, quand je me suis posé des questions, j'ai lu des livres qui arrivaient, et puis des articles. On disait que les soldats français s'étaient conduits comme des nazis. Bon, dans ce que je t'ai dit, il y a un peu du nazisme, peut-être pas exagéré, mais en Algérie, en Kabylie et partout, il s'est passé des choses épouvantables. Il y a même Courrières le cache pas, il y a eu des petits oradours, il y a eu des choses. Moi, les villages que je t'ai dit qui ont passé au napalm, les gens, ils étaient plus dedans. Attention.
Oui, ils ont balancé des gens à la flotte, par
Ouais,
hélicoptère, enfin,
ils ont
des
fait des
choses qui sont.
choses épouvantables. Bon. Chez où j'étais, je sais qu'il y a eu de la torture, tout ça, mais ça se passait à peu près à 1 km d'où j'étais. Moi, je n'entendais pas, je ne voyais pas, je sais que ça existait. Bon. Mais quand j'entends ça, j'ai dit, c'est vrai, c'est juste, c'est incompréhensible, puisque justement, les nazis, nous, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, quand quelqu'un te dit, vote pas pour lui, c'est un facho. Facho, c'est assez large comme truc. Tandis que nous, savait ce que ça voulait dire. Hein. C'était pas. On avait vu à l'école, on nous l'avait expliqué, on a lu, on a tout ce que tu voudras. Et il dit, c'est un peu fort quand même. Et c'est vrai. Alors j'ai dit, c'est vrai en lisant Courrières. Hein. C'est 5 volumes, là où c'est 4 volumes. Puis d'autres, j'ai lu, plus que parce que j'ai vu, hein, même si ce que j'ai vu, c'est pas bien charmant, hein, parce qu'il faut le voir, quoi, hein, ça se
Oui,
passe pas comme ça pour
ouais. Faut l'encaisser,
encaisser. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, bon, le soldat, c'est un salopard, il a le fusil aux mains, mais je dis au groupe Barbu, j'y vais à condition de pouvoir dire ça. Quelqu'un l'a fabriqué, ce fusil. Alors on va me répondre que c'est l'État qui est avant tout responsable de la guerre. C'est les politiques. C'est les politiques qui donnent les ordres aux militaires, etc. C'est les politiques qui sont responsables. Ils vont peut-être, mais si on ne fabriquerait pas d'armes, la politique se demanderait comment. Bon, tu vois. Alors c'est un peu enfantin apparemment comme raisonnement, sauf qu'il y avait d'autres possibilités qui ça. Si c'est pas possible d'arrêter de fabriquer les armes tant qu'on ne sait pas si on est menacé ou pas. Bon, je ne peux pas trop discuter de ça. Mais ce que je peux dire, c'est que. On a été transporté là-bas par des trains. Alors je sais que des soldats ont arrêté des trains, des mères, des pères à Marseille, ou comme ça, il y a eu des actions, hein, à Lyon, je crois. Mais au
À la
début.
ville telle aussi en Creuse,
Voilà.
Mermet en avait parlé, il y a
Ouais.
eu comme ça toute une commune qui s'appelle la ville telle qui a arrêté un train. Enfin bon,
Voilà.
je ne détaille pas, mais c'est très ponctuel, hein, quelques exemples comme ça, c'est tout.
Ouais. Mais ça venait de personnel civil. Moi, si tu veux, quand on est arrivé à Toulouse, nous, le train qui nous a amenés, il partait de Paris, en principe, ou du nord, quoi. Il traversait, puis il ramassait des soldats au fur et à mesure des villes. Et quand on est arrivé à Toulouse, brusquement, il y a des gars qui sont descendus et qui se sont précipités à l'attelage pour défaire les attelages. Et les gardes civils, gardes mobiles qui étaient là, casqués. Là, ils ont chargé, ils ont matraqué comme des dingues. Je veux dire, ça. Après, ils sont remontés dans les fourgons, il y en a qui n'étaient pas beaux. Hein. Alors, ces gars-là, cette fois-là, après, on est allé jusqu'à Port-Vendres, On a circulé toute la nuit, on nous faisait mettre sur des voies de garage. On n'a jamais vu, on a vu des cheminots, jamais personne nous a porté à boire, jamais personne n'est venu voir si les blessés avaient besoin de quoi que ce soit. Moi, il me semble qu'en tant qu'ouvrier, il risque absolument rien, là. Ce n'est pas parce qu'il se serait approché du train qui était sur la voie de garage pour dire vous voulez de l'eau, vous voulez quelque chose. Même on n'aurait pas besoin de demander s'ils en voulaient, il suffisait de le remporter. Ça, on n'a pas vu, on n'a rien vu. Bon, je vais revenir tout à l'heure au point de départ, que je disais, là, t'inquiète pas. Mais là, je te le dis maintenant. On arrive, on monte dans les bateaux. Ces bateaux-là, ils étaient chargés de canons, si tu veux. Il y avait des chars dedans. En plus, ils nous embarquaient. Alors, il faut dire qu'à la SNCF, la CGT était très puissante, ou Force ouvrière aussi. Il faut dire que sur les bateaux, c'est la même chose. Et sur les quais, c'était la même chose. Les dockers étaient pratiquement tous à CGT. Voilà des gens qui avaient le pouvoir de dire non, on ne transporte pas les armes, la France n'est pas en danger, c'est pas, on n'a pas l'ennemi à nos portes, on refuse que après ce qu'on vient de vivre, après le nazisme, faut dire que quand la guerre d'Algérie commence, il y a que 10 ans, il n'y a que 9 ans que la guerre est finie. C'est pas loin, hein, c'est pas loin. Et ça, on ne le voit pas. Alors on monte sur le bateau, il y a un truc qui me fait pas rigoler. Quand le bateau est en mer, ils ouvrent le bar. Et les gars qui servent au bar, c'est pas des comme aujourd'hui à bord des bateaux, il y a des Maliens un peu. Avant, c'était des Français, point. C'était pas le bateau français, c'était le Kérouan, le bateau français, c'était des Français. Et la plupart d'entre nous, quand on partait, on avait des billets assez forts. Je ne sais pas combien c'était, 10 000, je ne me rappelle pas 10 000 francs ce que ça fait, que la famille te donnait. On partait avec des gros billets. Et comme on était parti avec ces quelques billets, quoi, et puis monter dans le train jusqu'à Port-Vendres, on n'avait pas pratiquement rien dépensé. Alors dans le bateau, ils n'avaient pas de monnaie, ils prennent une bière comme ça, ils donnent le gros billet. Alors tu dis, tu attends pour la monnaie, je te la donnerai quand je l'aurai faite. Et au bout d'un moment, ils ferment le bistrot, ils se barrent. Je ne les revois plus, jusqu'à Alger, jusqu'à Oran, quoi, 24 heures. Ils ont piqué l'argent. Enfin, ça m'est pas arrivé parce que j'avais pas. Je pense que j'avais la monnaie ou je ne sais rien, je ne me rappelle pas. Et on arrive à Alger, à Oran plutôt, où on nous met dans un camp en attendant de partir dans le bled. Il dit, il nous est arrivé ça, mais nous aussi, ça nous est arrivé. Alors, c'est quand même gros, parce que ces mecs-là aussi. Alors mon raisonnement, moi, c'est de me dire. Si j'avais un fusil à la main, je ne suis pas quelqu'un, si je m'en suis servi, je ne suis pas quelqu'un de bien droit, mais tous ces syndiqués de putain de merde, et puis je n'ai pas peur de le dire, qui ont fabriqué les armes, qui ont transporté, qui nous ont transportés, qui nous ont pas aidés, c'était pas aidé en ne faisant pas passer à boire, c'était pas aidé en demandant s'il y avait besoin de soigner les blessés. Je parle même pas des flics, c'est des cons, on va pas revenir là-dessus. Mais tandis que là, il s'agit d'ouvriers syndicalistes, merde. Moi, je travaille dans le bâtiment, il me semble que n'importe quel gars du bâtiment aurait tendu une bouteille. Après, à bord du bateau, on te fait ça, je te parle pas de la bouffe à bord du bateau. Je vais le dire, ça me fera plaisir. Tu sais, la daube avec carottes, il n'y a pas longtemps que j'en mangeais.
Oh, mais moi, je suis persuadé
Il y avait que
que
ça.
la CGT, notamment, enfin, avait pris ses précautions, parce qu'il ne faut pas oublier que le PC était tout à fait favorable à cette opération de police à l'époque. Et les PC, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils savaient très bien qu'il fallait absolument qu'une fraternisation, comme tu dis, avec des syndicalistes. Et j'imagine, même s'ils ne contrôlaient pas tout, ils ont quand même fait beaucoup pour qu'il n'y ait aucun échange tel que ceux que tu peux décrire. Il y en a peut-être eu ponctuellement, individuellement, mais en tant qu'organisation, il est clair qu'ils ont accepté ce qui se passait. Ils ont plus qu'accepté, moi je pense qu'on peut appeler cela collaborer, de mon point de vue. Et je pense que le poids du PC, qui était à l'époque était encore assez fort dans la CGT, a dû jouer, même si je ne mets pas tout sur le dos de la CGT, mais c'était quand même un syndicat très fort. Et c'est certainement pour ça qu'il y a eu extrêmement peu d'échanges, à part par-ci par-là, comme tu as évoqué tout à l'heure quelques-uns.
À ce moment-là, je ne savais rien. Depuis, après avoir lu, je sais que le FLN n'a pas accepté le PC. Un officier français a chargé un camion d'armes et l'a amené au FLN. Et on ne l'a jamais revu. Il ne. Ils n'avaient pas envie qu'un parti communiste quelconque se forme en Algérie. Bon, il y en existait, mais principalement chez les Pieds Noirs.
Et puis, oui, il avait existé, mais il a perdu justement toute la partie d'Algériens de souche, si je puis dire, qui était là, vu sa position. Hein. Il a plus resté dans le PC en Algérie que les Pieds Noirs, effectivement.
Enfin, en attendant, moi, ça, je regrette d'avoir agi comme ça, mais ça m'a permis de refaire surface, c'est pas le mot, mais de pas pourrir ma vieillesse, parce que je sais qu'en vieillissant, de temps en temps, tu dors pas la nuit, tu sais, ça reviendrait. Et ça me permet d'éviter ça. Alors, le groupe Barrière, non, c'est une radio syndicale, mais allez vous faire voir.
Ah oui, donc t'as pas pu dire ce que tu viens de dire à l'antenne de Radio Libertaire? Ce jour-là.
Ah, je peux leur dire à eux, mais eux ne voulaient pas que je puisse le dire
à l'antenne.
À l'antenne de syndicale, si tu veux.
D'accord. Ouais, ça, ils n'assumaient pas. Pourtant, d'après ce que tu viens de dire, Serge, c'est quand même. On peut dire que c'est quasiment établi. Mm-hmm. Ouais. Ouais, c'est clair. Et donc, tu rentres d'Algérie, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? Après cette période où tu es complètement vidé, où tu ne peux plus parler, où tu vas mal, quoi. Tu te reconstruis un petit peu, tu te remets à travailler, tu reviens à la vie.
Ça m'est difficile à te l'expliquer, parce que j'étais plutôt dans un... Bon, on va faire concret. Je reprends l'entraînement de vélo. Oui. Mon père et ma mère me disent, tu recommenceras à travailler au mois d'octobre si tu veux, c'est au mois de juillet, si tu veux faire du vélo, fais du vélo. Alors, je fais quelques courses, puis je m'entraîne. Et à l'entraînement, on s'entraîne à 4 ou 6, 2 par 2. Parce que j'étais en première catégorie quand même. Bon, les entraînements sont assez longs, 150 km comme ça. Et on parle. Et moi, ça n'intéressait personne d'être à côté de moi, parce que... Il m'appelait Bibi. Tu sais. Il me dit, qu'est-ce que t'as, Bibi? Pourquoi tu parles pas, Bibi? Je sais pas. Je pouvais pas entamer une conversation.
Tu verras dans ton courrier un tout petit bout de papier bleu, blanc et rouge, et imprimé avec dessus le mot armée. Et puis tu feras ta valise, mettras à 5 à 6 chemises, pas pour partir en Italie, mais faire le con pour le pays. Tu auras un cœur gros comme ça, baiseras ta femme une dernière fois, et tu passeras la barrière sans jamais regarder derrière. Ladies and gentlemen, derrière les murs de vos cités, le carnaval est permanent, 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 le carnaval est permanent. Et petit con, tu vas répondre à nos questions. Je vais vous incorporer, vous immatriculer, vous saquer, vous piquer, vous raser. Saquer, piquer, raser. Saquer, piquer, raser. Saquer, piquer, raser. Saquer, piquer, raser. Saquer, 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 saquer. Pendant toute une année. ne te retourne pas. Sans arrêt comme ça, tout va bien. Bien sûr, la vie continue. On peut pas dire qu'elle t'ait attendue. Parler, mais on va chanter et danser. Hey la guitare, ça te dit plus rien. Oh toi qui en jouais si bien. Comme deux enfants retrouvés. Allez, viens, laisse tout tomber. Les temps et le temps lutter. Hey, danse.
Castellémis, l'armée, sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez toujours Trou Noir. Nous retrouvons Jean-Claude pour la dernière partie de l'interview que nous avions faite avec lui.
Ouais, donc tu reprends la bicyclette, mais tu restes muet.
Voilà.
Et ça dure pendant combien de temps à peu près?
Oh, parce que jusqu'au... Presque si, au printemps, jusqu'au printemps, alors j'ai perdu les dates là, 61, c'est... jusqu'au printemps 62.
Presque un an quoi.
Presque un an. Ouais. Et là
et bien là, d'abord, tu vois, mon père, lui, il ne veut pas m'en parler, je le sais. Il est très, très chouette, mon père, très gentil, tout ça, il ne parle pas, ma mère, c'est pareil. Mais. Il y a des trucs qui te blessent quelquefois, tu vois. Par exemple, mon frère, j'ai pas... bon, c'était un cadre du bâtiment. Il me dit quelquefois, mais rappelle-toi que les bons souvenirs... Parce que je ne demande rien, en fait, et je ne dis pas... Mais il doit voir que je parle pas, ou je ne sais rien. Il me dit, rappelle-toi que les bons souvenirs... Mais je n'avais pas de bons souvenirs. Lui, il est allé à l'armée à Baden-Baden en 1945. Il était cartographe, là. Il allait dans les avions pour prendre les photos, pour pouvoir faire les cartes d'état-major. Il n'a que des bons souvenirs, lui, bien sûr. Mais il allait au bal, il a été ce que tu voudras. Mais moi, j'ai pas... même là-bas, on ne s'amusait pas.
Ouais.
Tu sais, les livres, il n'y avait pas un livre. Un jour, il y a un gars, je ne sais pas, je vais au PC, je ne sais pas quoi faire, et il y a un type qui faisait sa valise, il attendait quelque chose, on ne fait pas. Il fait sa valise, il n'arrive pas à la fermer. Oh, putain, il rouspète, péter, il ouvre, il sort un livre. Puis il me regarde, il me dit, tu le veux? Un gros livre, je lui dis, si tu veux. C'était le Comte de Monte Cristo. C'est le seul livre, j'ai peut-être lu 4 ou 5 fois, puis je l'ai prêté à des copains, c'est le seul livre en 2 ans qui a circulé dans ma section. Rien, il n'y avait rien. Il y avait un curé, et le curé, il avait son bréviaire, je ne sais pas quoi.
Ouais.
C'est tout. Mm-hmm. T'es infirmier, ouais. T'es infirmier, quoi. Et pas un livre. Mais si j'avais envie, j'aurais dit à mes parents, envoyez-moi des livres. Parce que je lisais. Bon, bien sûr, je lisais pas. Je lisais, j'avais Jules Verne, je lisais des trucs comme ça, quoi, les bouquins Zola, beaucoup, tous ces livres, Victor Hugo, parce que moi, mon grand-père était franc-maçon, il y avait beaucoup de bouquins, tu vois. Bon, tous ces bouquins-là, je les lisais, on lisait beaucoup à cette époque, parce qu'il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien, tu sais, tu avais la radio, c'est tout. Alors, quand tu avais un moment, tu prenais un bouquin, et puis à l'école, on nous avait appris beaucoup à lire. Tu sais, le certificat d'études, c'était pas de la merde. Beaucoup de gens, les quelques-uns qui se bloquaient, ils se bloquaient en orthographe, parce que tu n'avais pas le droit de faire plus de 5 fautes, tu étais éliminé. Mais autrement, il fallait bosser pour l'avoir. Et les enseignants qu'on avait, c'était des enseignants de vocation, c'était pour qui ils avaient fait l'école normale, soit parce que l'école, l'État leur payait leurs études, quand ils étaient pauvres, par exemple, mais c'était des enseignants qui avaient envie de... qu'on s'en sorte, qu'on ait un métier, qu'on ait tout ce que tu veux. Alors, mais je te dis, là-bas, malgré tout ces livres, j'ai jamais dit à ma mère, envoie-moi des livres, je pouvais le faire.
Alors, vous aviez de l'alcool ?
Non, de la bière, c'est tout.
De la bière, oui.
Puis un vin, mais le vin, c'était du vin en poudre, je ne sais pas comment, qui est reconstitué. Là, c'est pas comment ça marche. Bon, il y en a qui le buvaient, mais pas... pas avec plaisir. Non, quand il y avait une fête, les fois pour les persans ou comme ça, ils allaient au village, il y avait une épicerie juive, quoi. Enfin, je dis juive parce que musulmans ne trouvaient pas trop d'alcool.
Bien sûr, oui.
Les juifs, je ne sais pas comment ça va, mais enfin, ils trouvaient du martini ou des bêtises comme ça, et ils se prenaient une cuite avec ça, quoi. Mais il n'y avait pas d'argent non plus, c'était...
La solde était maigre.
Oui, après 24 mois, tu es payé davantage. Non, c'est quand on buvait, c'était des jus de fruits. Alors, c'est, je crois que ça s'appelle jus d'or, ou je sais pas quoi. C'est des jus d'orange ou de citron. Alors, quand on avait des sous, on s'achetait ça. Non, l'alcool, on n'avait pas envie. Fumer, il y en a qui fumaient, oui. Bon, mais il n'y avait aucune envie. On avait un ballon de rugby, ça ne servait jamais. On aurait pu s'amuser, il y avait la place.
Alors finalement, à l'époque où tu vas en Algérie, où tu vis cette période de la guerre d'Algérie, tu n'es pas tellement politisé finalement.
Moi non.
Non. C'est peut-être mieux finalement, non ? Parce que si tu avais été politisé, ça aurait été encore plus dur de...
Ah, si j'avais été politisé, j'aurais rencontré des gens qui m'auraient parlé, qui m'auraient dit tu y vas parce que tu n'as pas le choix, c'est triste, c'est comme ça. Si tu veux déserter, va-t'en en Amérique latine. Bon, il y avait des filières de désertion, mais c'est surtout les sursitaires qui en profitent. Ou les gens qui sont peut-être un anar, dont la famille est anar, qui bien sûr peut avoir tenté. Mais nous, mon père, moi, était employé TOB, était syndiqué, il a fait des grèves sensationnelles, 23 jours une fois. Il n'y avait plus rien à manger à la maison, je peux te le dire. Mais pas pour ça. Il n'était pas patriote non plus. J'ai jamais entendu la Marseillaise chez moi, ni tout le même mois.
Mais enfin, c'était pas ton... C'était pas quelque chose qui te souciait, la question politique, la question sociale
Si, un peu quand même, parce que... je fais 3 ans de certificat d'études, après je vais 3 ans dans un centre d'apprentissage. C'était 3 ans d'apprentissage. Et là, on va au niveau seconde à peu près, peut-être en dessous, mais enfin, c'est à peu près ça. Et on a des profs qui sont quand même assez bagarreurs, surtout pour le syndicat, quoi. Mais ils nous parlent pas, et ils nous parlent quelquefois, c'est arrivé qu'on dise, il y a la guerre, il y en a qui disent, oh, mais nous, on n'ira pas, monsieur, elle sera finie. Bon, à ce moment-là, c'est 56, si tu veux, 56, 57. Alors, en principe, je ne sais pas s'ils répondent. Ils doivent répondre oui, j'espère, ou comme ça, c'est tout. Mais la colonisation, tu vois, j'entendais Hollande à la radio l'autre jour qui plébiscitait Jules Ferry, ça commençait à faire la grimace, mais qui a quand même dit qu'il avait un esprit colonisateur qui était... bon. Alors, c'est ça, à l'école, si tu veux, c'était à peu près ce niveau-là. Ils étaient capables, c'était pas lycée, c'était des collèges, c'est le centre d'apprentissage, ça a été fait après la guerre. C'était un peu spécial, il y avait un directeur, il n'y avait pas... Les profs d'atelier, c'était nous, par exemple, on avait un menuiserie, c'était un gars qui avait eu à la guerre, c'était un menuisier, qui prisonnier a eu les doigts gelés. Alors il s'est retrouvé invalide. Et il est devenu professeur, là. C'était sympa, hein, c'est sympa. Et malgré tout, on parlait. Même le surveillant général, tu vois, c'est comme ça que j'ai appris, que j'ai connu Brassens, parce que c'était tout à fait au début de Brassens. Et il nous rassemblait le jeudi après-midi. on s'assoyait par terre et il nous passait les disques de Brassens, les premiers disques. C'était en 56, hein. Je ne sais pas quand il a démarré, Brassens en 53 ou des années comme ça. Quoi. Et il nous éveillait quand même un petit peu. C'est pas... Non, j'aurais pu rencontrer facilement les militants communistes. Ils distribuaient l'humanité dans ma rue. Il suffisait que j'en arrête un, je discute, mais j'en avais pas idée. Je ne vois pas pourquoi je l'aurais fait d'ailleurs. Pas idée.
En tout cas, tu as rencontré personne qui t'a dit, finalement, ça fait 4 ans, voire plus, parce que tu es parti après plus de 4 ans de guerre en Algérie. Là-bas, c'est vraiment la guerre, la guerre avec tout ce que ça signifie. Personne, ni dans tes lectures, si tu en avais dans les journaux, ni dans tes rencontres, personne ne t'a ouvert à ces idées-là, informations-là.
Ça aurait pu arriver si j'avais été à l'Athénée Libertaire, avec les Lapeyres, avec tous ces gens-là. Personne ne m'aurait empêché de le faire, mais je ne savais même pas ce que c'était un anarchiste, en réalité. Je savais le mot, mais je ne savais pas, ni en mal, ni en bien, je ne savais pas ce que c'était. Il n'y a que là, en fait, compte que j'aurais pu apprendre quelque chose.
Oui, puis dans l'Union Pacifiste, ou dans des milieux comme ça, quoi.
Oui, c'est possible.
En fait, ouais, et donc tu croises les militants communistes, mais tu ne t'y intéresses pas, quoi.
Non. Mais le bâtiment, c'est le syndicat, le parti politique.
Alors, donc quand tu rentres dans la profession, vraiment, là, tu te syndiques immédiatement, ou comment ça se passe ?
J'ai jamais été syndiqué.
Tu n'as jamais été syndiqué ?
Une fois, mais ça a duré 6 mois.
Ouais. Raconte.
Mais je vais une manif et puis on me propose la carte. Bon, je me dis pourquoi pas, puis je la prends. Et puis 4-5 mois après, il y a un gros pépin à la boîte de menuiserie où on a un patron qui disjoncte complètement. Il boit et puis si, ça. Et il prend des sanctions injustifiées contre 2 ouvriers qui étaient très jeunes. Alors moi, je leur dis ça, pas se passer comme ça. Et moi, je les amène à la bourse du travail. Alors j'ai dit, voilà, 2 copains, voilà ce qui s'est passé à la boîte. Et un président, oui. Alors, c'était à moitié, on va dire que c'était à moitié d'une année, c'était à peu près en 73. On va dire c'était en juillet, c'est à peu près comme ça. Parce que, tu vas voir pourquoi. Et il dit, bon, il prend ses papiers, puis il dit, bon, alors je vous fais la carte. Alors, il part du mois de janvier. Il était à te faire enculer, toi. Je me suis barré. Et si c'est ça, votre syndicat, vous allez vous faire voir. Bon, les gars, ils ne savaient pas s'ils sont dans la merde, ils vont être virés. Vous voulez tout de suite vous leur sauter au crâne pour avoir du pognon pour. Ah, ben oui, mais il faut avoir un conseiller juridique, il va te faire voir. Alors, j'allais trouver le patron, moi, puis j'ai arrangé les choses.
Directement. Voilà.
Ouais. Il dit, c'est pas vrai ce que vous accusez, c'est pas vrai, mais ouais, mais il y a bien quelqu'un qui l'a fait. Mais j'ai dit, ouais, il y a quelqu'un qui l'a fait, mais c'est pas vrai. Et puis, c'est tout. Il m'a dit, bon, j'attire une trait. Ouais, ça va.
Et donc, du coup, voilà, ton aventure syndicale s'arrête là.
Ouais. Mais c'est pas, je suis pas contre le syndicat, hein. Ouais. Au contraire, je suis d'accord. Mais pas pas le syndicat qu'on a aujourd'hui. Pas les syndicats qui n'ont qu'une hantise, c'est que la boîte délocalise, c'est que la boîte se barre, c'est que l'argent s'en aille, c'est que c'est pas des révolutionnaires, c'est tout ce que tu voudras. Hein. Bon, dans ce cas-là, je les respecte pas. Mais je connais leurs nécessités. Et je sais très bien que s'il y avait un mouvement important, il ne partira que de là. Tu le vois bien quand il y a des manifs, même le CPE, c'est les étudiants, mais c'est le syndicat étudiant qui ont démarré. Bon, plus ou moins poussé par les socialistes, c'est possible, mais l'UNEF, tout ça... Mais on sait très bien que c'est pas... on en a besoin. Mais d'abord des professionnels comme ça, là, qui sont élus et puis qui désignent presque leur successeur, ça colle pas, ça, c'est pas ça.
Ils fonctionnent avec en grande partie avec les subventions de l'État maintenant, hein, faut pas l'oublier. Hein.
Voilà, oui. Ouais. Oui, ils peuvent se passer d'adhérents pratiquement. À une époque, là, la CGT, la CFDT s'en vantait qu'ils pouvaient se passer de cotisants. Alors, non, mais contre le fait de se syndiquer, je suis pour, hein, à 100%. Ça, c'est pas ce que je veux dire. Hein.
Mais en tout cas, c'est pas un choix que tu as fait, toi.
C'est pas un choix que j'ai fait, parce que j'ai fait le choix d'être indépendant, de me mettre travailleur indépendant.
Justement, toi, Tu as été très vite dans une recherche d'autonomie, pas seulement dans ton travail, mais dans ta vie tout court, finalement. C'est ton côté solitaire qui t'a poussé à ça?
Mais j'aime pas être commandé, sauf si c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Hein. J'aime bien l'apprendre, je suis assez dur, après je ne comprends pas du premier coup. Hein. Mais si on me donne la patience, j'apprends. Et une fois que je sais, je n'ai pas besoin qu'on me dise, tu t'y prends comme ça et comme ça. Et bon, alors ça c'est clair. Donc j'ai décidé, j'étais artisan ou tâcheron, j'ai toujours été comme ça. Et là tu es isolé, quoi. C'est pas, parce que tu es un tout petit artisan. Donc la banque ne te respecte pas,
oui,
les marchands de matériaux ne te respectent pas, tout juste quoi. Ils te disent bonjour, si, mais enfin, ça n'a pas besoin de toi. Et c'est une vie, mais moi ça m'a plu. Puis, ici, ça a permis de construire ma maison et tout ce que tu voudras. Mais c'est mon tempérament, mais je te signale quand même qu'on ne le dit peut-être pas bien souvent, fin des années 1800 et tout ça, il y avait beaucoup d'artisans qui étaient anarchistes.
Ouais.
Attention, hein, c'était le fait de... D'être isolé, peut-être, d'être indépendant, ça pousse à la lecture, d'abord. Il lisait beaucoup, ça pousse à rechercher aussi des amis. Ça n'est pas, ça veut pas dire je suis seul, je veux voir personne. Il n'y a pas des ermites. Moi, ouais, je connais beaucoup de monde. Et on milite. Voilà.
Que Brassens disait, oui, solitaire mais solidaire.
Tu sais comment j'ai contacté les anards? Un jour, je vois Le Libertaire,
ouais.
C'était en 78, je crois. Mais Le Libertaire, à Rouen, ou à Nantes, à Nantes, tu sais.
Ah, le Libertaire qui était fait au Havre. Alors.
Ça doit être au Havre.
Oui, ouais, l'Union anarchiste.
Ouais. Enfin, dans la région.
De l'Union anarchiste, oui.
Voilà, il y avait le père à Jospin, il y avait comme celui qui a écrit des chansons. Là,
les ans, il y avait
les ans. Les ans, c'est les ans, ouais. Ouais. Et je me suis abonné à ce journal, puis moi, ils envoyaient des petites brochures, toutes petites, là, je les ai là, quoi. Et c'est comme ça que j'ai appris, petit à petit, petit à petit. Puis après, j'ai acheté des livres, et j'ai appris tout seul, j'ai découvert tout seul.
Ah ouais, en fait, et ce libertaire, tu l'as trouvé par hasard, enfin
Il y avait, sur le pont de Pierre, il y avait des panneaux, des libertaires qui avaient été affichés.
Ah voilà, et donc du coup, ça, tu t'es dit, tiens, c'est quoi?
Donc, je me suis arrêté.
Le pont de pierre à Bordeaux, hein, pour les éditeurs.
Le pont de pierre à Bordeaux. Oui, donc tu vois des affiches invitant à acheter Le Libertaire.
Voilà, je m'abonne, et puis ça a marché comme ça pendant une dizaine d'années. Puis quand les manifestations de 95 sont arrivées, là j'ai rejoint la CNT, parce qu'il y avait un beau cortège à Bordeaux, la CNT a été là. Et j'ai rejoint, puis après je me suis aperçu que ce que je lisais, j'en pensais déjà une partie, quoi. Mais je l'avais retrouvé aussi à travers des lectures. Mais j'ai jamais trouvé personne de moi-même qui vienne vers moi en me disant...
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est marrant.
Oui, mais en même temps, c'est bien, parce que finalement, l'anarchiste que tu l'as découvert petit à petit en toi, et que tu t'es rendu compte finalement, comme tu l'as dit, qu'une partie des idées est aussi liée à ta vie, ben, tu les avais retrouvées parmi un collectif plus large, qui était le collectif autour du Libertaire et autres. Ça fait souvent des militants solides, parce que ils sont pas séduits parce uniquement parce qu'ils ont vu dépasser les drapeaux noirs dans la rue. Ils sont séduits parce que les idées qu'ils avaient déjà trouvées par leur démarche, ce que tu as expliqué, ils les retrouvent avec d'autres. Et en général, ça fait des militants qu'on retrouve des années après. D'ailleurs, on te retrouve encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui.
Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guérilla, dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Parti pour mourir un peu à la guerre, à la guerre. C'est un drôle de petit jeu, qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà.
Eh bien, nous avons écouté Francis Lemarque, Quand un soldat, sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez Trou Noir pour les 5 dernières minutes, allez, à peu près. Eh bien, oui, bah, Radio Libertaire, qui ne fait pas de publicité, a besoin de trouver d'autres financements. Et il se trouve, par ailleurs, que nous avons eu et nous allons avoir encore incessamment sous peu de gros gros frais de matériel, en particulier pour améliorer l'antenne, pour améliorer le podcast, pour améliorer l'écoute par internet un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, malheureusement tout ça ce n'est pas gratuit. Il nous faut donc des sous que nous, auditeurs, vous, nous, puisque lorsque nous ne sommes pas derrière le micro, ben nous sommes aussi des auditeurs de Radio Libertaire. Donc il faut que tous ensemble, on donne des sous. Pour ça, deux manières, toujours la bonne vieille carte d'auditeur, toujours à 20 euros. Mais c'est bon, ce qui est encore mieux, et vous pouvez faire les deux si vous voulez, ce qui est encore mieux que la simple carte d'auditeur, c'est l'adhésion à l'association des amis de Radio Libertaire. Adhésion par laquelle vous autorisez un prélèvement automatique d'un minimum de 5 euros qui permet un financement. Alors, comment dire, un prélèvement mensuel, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, je m'embrouille un petit peu les pédales, ce qui permet justement, du fait que c'est mensuel, un financement régulier pour la radio, parce qu'au-delà des coûts ponctuels d'achat de matériel, il y a aussi la diffusion qui, elle, nous coûte beaucoup d'argent, mais ça, c'est tous les mois. Voilà, alors écoutez, la semaine prochaine, Trou Noir vous propose une émission en direct avec Michel Besson au sujet de l'ouvrage collectif auquel Michel Besson a participé, ouvrage coordonné par Philippe Baquet intitulé « La bio entre business et projet de société ». On va mettre un dernier titre pour faire la transition avec les Mangeux de terre que vous allez retrouver tout de suite après.
Les caveaux de famille de pesants mystères qu'il vaut bien mieux parfois laisser dormir en paix. Il faut laisser le droit aux aïeux de se taire, accepter leurs baisers et leur silence épais. Car si vous prend l'envie de chercher vos racines dans les tiroirs secrets des buffets Henri III, vous y découvrirez des photos qui fascinent, mais aussi le parfum de l'an 43. Vous risquez de trouver au creux des ménagères la Francisque Martial sous les couverts d'argent et dans le cher album la figure étrangère d'un noble et beau vieillard au sourire engageant. Tous les enfants de France ont un second papy couronné d'espérance et de chêne au képi. Et toi, la houlette et moustique. tâche enneigée. Petit Français, répète, tu es notre berger. Pas vraiment mort, le maréchal aimable. Il juge vos actions, protège vos vertus. Et si son effigie ne trône plus à table, elle veille encore au grain comme un vieillard têtu. Au moindre appel, voyez, les regards s'illuminent. Cerveau garde à vous et le cœur en gala. Les ancêtres oubliant le roc et l'albumine, entonne tout joyeux, maréchal, nous voilà. Et chacun de comté commande la défaite. Un berger consola tout un peuple vaincu. Et comment il sut faire du malheur une fête? Avec quelques discours et coups de pied au cul. Tous les enfants de France ont un second papy, couronné d'espérance et de chêne au képi. Et toi, la houlette et moustache enneigée, petit Français, répète, tu es notre berger. Orphelin de moitié, quand mon papa de dip prend à balai le complexe plus qu'une aide de raison. Un psychiatre apparu du prénom de Philippe et mamie s'écria, un homme à la maison. Alors mon cher papa fit couper ses anglaises, qu'au pied du maréchal il s'en vint déposer. Petit short kaki et les genoux à l'aise, jurant de féconder notre sexe opposé. Se gavant de Doriot plus que de vitamines, il attendait le jour en relisant Peggy, où lui aussi pourrait liquider la vermine et seconder tonton à traquer les maquis. Tous les enfants de France ont un second papy, couronné d'espérance et de chêne au képi. Et toi, la houlette et moustache enneigée, petit Français, répète, tu es notre berger. Tata Fernande avait encore sa chevelure, ses coques étagées dont mon oncle était fat. Ce bon tonton Marcel qu'il avait fière allure, sous le béret viril marqué du signe alpha. Il veillait tard le soir et peaufinait les listes des amis et voisins qui dessinaient des V, des plutôt francs-maçons et des bolchogolistes, des anglo-communistes à jamais enjuivés. Et puis au petit jour, songeant à la droiture du héros de Verdun, tonton s'assoupissait. Cependant que tata, à la commandanture, postait ce qu'il savait de ces mauvais Français. Grand-mère finissait d'espionner les voisines, derrière le frais voilage des rideaux de Vichy. Elle semblait inventer la nouvelle cuisine au mou de vos spongieux farcissant ses hachis. J'aurais tant aimé que papy goûte ma recette, disait-elle en touillant l'exquis rutabaga. Mais grand-père est mort depuis 1917. quelque part sur le front. Et d'autres petits gars comme lui ne diront rien à celui qui contemple leur nom bien aligné, dont l'or déjà s'éteint. Car mon grand-père est mort, fusillé pour l'exemple, sur l'ordre du bon berger, sur l'ordre de Pétain. Tous les enfants de France ont un second papy, couronné d'espérance et de chêne au képi. Et toi, la houlette et moustache enneigée, petit français, répète.